Bon, décortiquons un peu ça aujourd'hui. Souvent, quand on interagit avec nos écrans en ce moment, on fait l'expérience d'une fluidité qui frôle un peu la magie, non?
Ah bah complètement, ouais.
On pose une question hyper complexe à un téléphone et paf, une réponse s'affiche. Et c'est pas juste une réponse, elle est parfaitement formulée, structurée et elle a même l'air attentionnée en fait.
C'est vrai que le ton est souvent bluffant.
C'est tellement propre et lisse qu'on a viscéralement l'impression qu'il y a quelqu'un, ou en tout cas, genre une sorte de petite conscience bienveillante qui est tapie juste là, derrière la vitre de l'écran.
Et cette impression, elle est redoutable parce qu'elle touche vraiment à nos instincts les plus profonds. L'être humain, en fait, est biologiquement programmé pour chercher de l'intentionnalité là où il y a du mouvement.
Du mouvement ou de l'interaction, ouais.
Exactement. Surtout quand il y a une réponse linguistique qui est cohérente. C'est un vieux réflexe de survie, mais qui devient une énorme faille face à la technologie d'aujourd'hui.
Eh bien, c'est exactement cette faille qu'on va explorer dans cette plongée au cœur de nos sources. Quand on regarde les documents, les conférences et les démos techniques qu'on a épluchées pour cette analyse,
Ouais, il y a de la matière.
à ça, oui, eh bien, cette illusion de la petite conscience, elle vole complètement en éclats. Notre mission avec cette exploration, c'est vraiment de démystifier la bête. On va mettre de côté la magie de science-fiction, dissiper les peurs irrationnelles.
Ce qui n'est pas du luxe en ce moment, hein.
C'est clair. Tout ça pour comprendre intimement comment ces systèmes apprennent. On va voir comment on peut s'en servir efficacement au quotidien, sans se faire berner, et surtout, quels sont les pièges colossaux qui nous attendent.
C'est un programme essentiel. Et franchement, la première étape pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'accepter ce qu'elle n'est plus.
Ce qu'elle n'est plus, c'est-à-dire?
Ben, le grand public utilise le terme IA comme un mot magique, mais c'est un mot valise. Dans les documents visuels qu'on a analysés, il y a cette métaphore hyper parlante des poupées russes.
Ah oui, l'image des poupées russes, j'ai trouvé ça génial pour clarifier les choses.
N'est-ce pas? La plus grande poupée, le gros conteneur extérieur, c'est l'intelligence artificielle au sens très large. C'est un concept qui date quand même des années 50.
Ça date pas d'hier, ouais.
Voilà. Et si on ouvre cette poupée, on trouve à l'intérieur le machine learning, donc l'apprentissage automatique.
Ok.
Tissage profond. Et c'est ce fameux deep learning qui propulse la révolution actuelle.
En s'appuyant sur des milliards de réseaux de neurones artificiels, c'est ça?
C'est tout à fait ça.
Et ça, c'est un changement de paradigme massif par rapport à l'informatique avec laquelle on a grandi. Parce qu'avant, l'IA, c'était ce qu'on appelait l'IA symbolique.
L'IA basée sur des règles, ouais.
Voilà, c'était super rigide. Un programmeur humain s'asseyait devant son clavier et tapait des règles strictes du genre « Si l'utilisateur clique ici, alors affiche ça. Si la condition A est remplie, lance le processus B. »
Le fameux if-then des informaticiens.
C'est ça. Le problème, c'est que dès que la machine rencontrait une situation qui n'était pas prévue dans le code, bah elle plantait. Nos sources donnent une analogie que je trouve parfaite pour illustrer l'absurdité de cette ancienne méthode. C'est comme essayer d'apprendre à faire du vélo en lisant un manuel de physique.
L'analogie est très juste. Imaginez un instant le programmeur qui essaie d'écrire toutes les règles pour faire du vélo.
L'enfer!
Il faudrait coder le calcul de la gravité, les équations de la force gyroscopique des roues, la compensation de l'oreille interne avec le vent.
C'est impossible. Sur le papier, c'est mathématiquement parfait, mais en pratique, aucun cerveau humain ou mécanique ne peut calculer ça en temps réel pour ne pas tomber.
Exactement. L'ancienne IA s'effondrait littéralement sous la complexité du monde réel.
Alors comment la nouvelle IA s'y prend-elle du coup? Puisqu'elle arrive à faire des choses infiniment plus complexes sans qu'on lui donne ses fameuses règles.
Eh bien, c'est le passage à l'IA dite connexionniste. Aujourd'hui, les ingénieurs ne donnent plus aucune règle du jeu, plus de manuel de physique.
Ok.
À la place, ils créent une structure informatique vide, qu'on pourrait grossièrement comparer à un cerveau vierge, une grille gigantesque de connexions mathématiques. Et au lieu de donner des règles, on donne des exemples.
Des exemples, genre beaucoup d'exemples.
Des milliards d'exemples. Pour reprendre le vélo, la machine monte sur le vélo virtuel, elle pédale, elle tombe.
Aïe.
Elle enregistre l'erreur, elle modifie légèrement ses connexions internes, elle remonte, elle tombe un peu plus loin.
Et elle recommence.
Et elle fait ça des millions de fois par seconde jusqu'à trouver l'équilibre. Elle ne connaît pas du tout la loi de la gravité, mais elle a déduit comment ne pas tomber par la pure force de l'expérience.
Attends, c'est là qu'il y a un truc fascinant. Cette machine qui apprend par l'expérience, d'où elle tire toutes ces expériences? D'où viennent ces fameuses données?
Ah, la bonne question.
Quand on creuse les documents, on réalise qu'on est tous les professeurs de cette machine à notre insu. Il y a cet exemple flagrant dans la conférence avec les fameux CAPTCHAs sur Internet.
Ah oui.
Tu sais, ces petits tests de sécurité pour prouver qu'on n'est pas un robot.
Les petites grilles où il faut cliquer sur tous les feux rouges ou les passages piétons.
Exactement. Pendant des années, on a tous consciencieusement cliqué sur des millions de passages piétons, en râlant un peu parce que ça nous faisait perdre du temps au moment de payer un truc en ligne.
On l'a tous fait.
Mais en fait, on faisait littéralement du travail gratuit d'entraînement d'IA. À chaque clic, un humain disait à la machine « Regarde, dans ce chaos de pixels, c'est ça un feu rouge ».
C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On donne à la machine une donnée qui a été étiquetée par un humain. Et c'est là qu'on touche à une différence fondamentale, presque philosophique, je dirais, entre l'intelligence biologique et artificielle.
Ouais.
La machine est ultra rapide, mais elle est terriblement inefficace dans sa manière d'apprendre par rapport à nous. Prenez l'exemple d'un enfant d'un an et demi à qui on veut apprendre ce qu'est un chat.
Oui, on lui montre un vrai chat dans la rue ou une photo dans un livre pour enfants. Et c'est réglé.
Voilà. Avec une, deux, peut-être trois interactions maximum, le cerveau de l'enfant a synthétisé le concept abstrait de la félinée. Il a compris que ça a des oreilles pointues, des moustaches, une certaine démarche.
C'est instinctif.
Demain, montrer à cet enfant un chat en dessin animé, un chat d'une autre couleur, ou juste la queue d'un chat qui dépasse un canapé, il saura que c'est un chat.
Alors que l'IA...
L'intelligence artificielle, avec ses gros réseaux de neurones, est incapable de faire ça. Pour qu'elle commence à identifier un chat avec une fiabilité correcte, il faut lui injecter entre 100 000 et 300 000 photos de chats.
100 à 300 000 photos, c'est dingue!
Et tout étiqueté manuellement, hein.
Et le pire, comme le souligne la source, c'est que cette reconnaissance reste d'une fragilité absolue. Si on a entraîné la machine uniquement avec des photos de chats bien au centre de l'image, en plein jour,
ouais,
et qu'on lui présente une photo de chat cachée dans la pénombre ou un chat dont la moitié du corps est masquée par une porte entrouverte, eh ben l'IA s'effondre. Elle ne voit plus de chat. Elle n'a aucune capacité d'extrapolation.
Aucune. Parce qu'elle n'a pas le concept du chat. Elle a une équation mathématique qui décrit la probabilité que tel pixel coloré se trouve à côté de tels autres pixels.
Ça casse un peu la magie.
C'est du calcul pur. Et cette illusion de la compréhension devient encore plus perturbante quand on passe au domaine du langage, avec l'explosion récente des LLM, les grands modèles de langage.
Alors ça, c'est là que j'ai besoin qu'on s'arrête un instant. Parce que la mécanique est complètement hallucinante. Quand on tape une phrase, l'IA ne lit pas du tout les mots comme nous on les lit. Nos recherches expliquent qu'elle commence par hacher nos mots en petits morceaux.
C'est ça, des morceaux qu'on appelle des tokens.
Des tokens, ouais.
C'est la première étape. Un token, c'est souvent une syllabe ou un mot court. Mais le vrai secret de la machine, c'est ce qui se passe ensuite avec ce qu'on nomme les embeddings.
Les embeddings, c'est technique, mais c'est le cœur du truc.
C'est fondamental. Imaginez que l'IA prend tout le vocabulaire humain et le place sur une carte géographique gigantesque.
Une carte des mots.
Voilà. Sauf que cette carte n'a pas deux dimensions comme un plan de Paris ou de Montréal. Elle possède des milliers de dimensions mathématiques.
Carte à 1000 dimensions.
Exactement. Sur cette fameuse carte vectorielle, le token « roi » sera placé très près du token « reine ». Le concept de « pomme » se rapproche de poire sur l'axe des fruits, mais il sera aussi proche de rouge sur l'axe des couleurs.
C'est fascinant. Et pourtant, la machine ne sait absolument pas ce qu'est une pomme.
Non, elle n'a jamais goûté de fruits, elle ne sait pas ce qu'est la royauté. Mais elle connaît avec une précision diabolique la distance mathématique qui sépare chaque concept humain.
D'accord, la mécanique cartographique est super claire, mais je vais me faire l'avocate du diable un instant.
Allez-y.
Quand je teste un chatbot conversationnel de dernière génération et que je tape... je sais pas, je passe une journée terrible, j'ai l'impression de tout rater.
Mmh.
Et que la machine me répond, je cite, « Je suis sincèrement désolée d'entendre ça. C'est normal de se sentir dépassé parfois. Comment puis-je vous aider à alléger votre fardeau ?» Fin de citation.
C'est une réponse typique.
Le ton est tellement juste, l'empathie semble tellement réelle. Comment c'est possible si ce n'est qu'une carte d'aide mots froids et mathématiques ?
Eh ben, c'est là tout le cœur de l'illusion. Les experts utilisent une expression redoutable pour définir ça. Ils parlent de perroquet stochastique.
Un perroquet stochastique, ça sonne bien.
Un perroquet biologique répète des mots qu'il a entendus sans en comprendre le sens. L'IA générative, c'est un perroquet stochastique, c'est-à-dire probabiliste, mais dopé aux stéroïdes. Elle n'a pas d'âme, pas d'émotion, pas d'intuition.
Donc face à ma phrase de détresse, que fait-elle en vrai?
Elle regarde sa carte vectorielle immense, elle analyse les tokens de la question et elle calcule simplement la probabilité du mot suivant.
Attends, donc elle se dit juste, après les mots « je passe une journée terrible », quel est le mot qui a le plus de chances d'apparaître sur Internet?
Exactement. Et statistiquement, la réponse la plus probable dans ces milliards de textes d'entraînement, ça commence par « je », suivi de « suis », suivi de « désolé ». Elle génère la réponse un mot à la fois, en devinant à chaque microseconde la suite la plus logique mathématiquement.
C'est fou de se dire que c'est juste un tour de magie statistique.
Et si on ressent de l'empathie, c'est uniquement parce que notre cerveau humain, à nous, est conçu pour projeter des émotions sur ce qui ressemble à une interaction sociale.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on intègre cette idée, si on accepte que l'outil n'est qu'un gigantesque moteur de probabilité complètement aveugle, alors la façon dont on lui parle doit radicalement changer.
C'est impératif.
Ce n'est pas un oracle de la mythologie grecque qui détient la vérité absolue. Dans la conférence, ils utilisent l'image du commis de cuisine. Et franchement, ça change tout.
C'est une métaphore très opérante, en effet. Le système est un commis de cuisine ultra rapide, mais sans aucune initiative créative.
C'est ça. Si le chef se contente de crier « Fais-moi un bon plat »,
le commis va piocher au hasard dans les ingrédients les plus probables, et le résultat sera banal, voire totalement indigeste.
Par contre, si le chef donne une recette précise, s'il fixe le temps de cuisson, s'il détaille le dressage attendu et liste les ingrédients à éviter,
là, le commis exécutera le tout à la perfection en une fraction de seconde.
Ce qui nous amène directement à l'art du prompt, la commande. Comment parler à la machine pour avoir ce qu'on veut?
Tout à fait.
Il y a 5 règles d'or qui ressortent de nos sources pour maîtriser ce fameux commis. 1. La précision, c'est-à-dire définir le format exact de la réponse. 2. Un contexte riche.
Très important, le contexte.
3. Des questions claires. 4. Donner des exemples du résultat voulu. Et 5. Exiger qu'elle cite ses sources. Mais attardons-nous sur le contexte, justement. Pourquoi c'est si vital pour notre perroquet probabiliste?
Parce que le contexte construit des murs autour des probabilités.
Comment ça?
Si on lance une recherche vague, la machine a accès à tous les mots du dictionnaire pour construire sa réponse. Les chances de tomber à côté sont énormes. Mais si on lui donne un paragraphe de contexte, mathématiquement, on lui interdit l'accès à des millions de mauvaises réponses sur sa fameuse carte vectorielle. On force le calcul statistique dans un couloir très précis.
Ah ouais, ça prend tout son sens. Surtout avec les démos audio de la conférence, on sort complètement de l'ère de la recherche Google avec des mots-clés hachés.
Complètement.
L'intervenant fait une démo en direct qui est géniale. Il ouvre virtuellement son frigo et parle hyper naturellement à l'IA. Il dit un truc du genre « J'ai un fond de crème fraîche, des lardons, des œufs, des pâtes et quelques légumes flétris. Agis comme un grand chef italien et propose-moi une recette originale pour ne rien jeter. »
Et le résultat ?
La machine génère une carbonara du jardinier étape par étape. Mais elle va beaucoup plus loin. On peut lui demander d'évaluer les calories exactes de l'assiette en fonction des quantités.
Et le plus frappant là-dedans, ce n'est pas tant la recette de pâtes, c'est le processus derrière. Les modèles récents utilisent des modes de raisonnement.
C'est-à-dire ?
L'IA ne recrache plus le premier mot instantanément comme avant. Elle opère en deux phases distinctes. D'abord, elle réfléchit à voix basse, entre guillemets, elle planifie la recette, elle fait les calculs d'ingrédients de son côté.
En coulisses, quoi ?
Voilà, et ensuite seulement, elle rédige la réponse finale. Cette capacité de planification, ça permet de s'attaquer à des tâches bien plus lourdes.
Comme la fameuse lettre de motivation. Dans un autre exemple des sources, on demande à l'outil d'écrire une candidature pour un stage dans un centre de loisirs hyper précis à Saint-Brice-Courcelles.
Un vrai cas d'usage.
On lui donne le profil du candidat, les attentes du centre, et paf, l'IA produit un brouillon ultra ciblé. Et le secret qu'il partage, c'est l'itération.
Ah, ne jamais s'arrêter au premier jet.
Jamais. On discute avec le commis. On lui dit « c'est un peu trop formel, rend le ton plus chaleureux » ou alors « raccourcis le deuxième paragraphe ».
L'itération est cruciale, ouais. Et si on pousse cette logique d'analyse de contexte à son paroxysme, on arrive à la démonstration la plus édifiante de la présentation, l'analyse juridique.
Oh là là, oui.
La capacité de la machine à avaler du jargon opaque et en extraire la substantifique moelle.
Le passage sur les conditions générales d'utilisation d'Instagram. Ce fameux texte de 50 pages qu'absolument tout le monde valide sans jamais le lire.
Personne ne lit ça.
Dans la démo, il copie l'intégralité du texte juridique dans l'IA et le prompt est brillant. C'est « résume-moi ces conditions comme si j'avais 10 ans et dis-moi quels sont les risques ».
Et soudain, le brouillard juridique se dissipe totalement.
Mais grave. La machine explique avec des mots d'enfant une réalité brutale. Elle dit que l'application est gratuite parce que l'utilisateur est la matière première vendue aux annonceurs.
Et le résumé met surtout en lumière une faille liée aux différences de droit international. En France, le droit à l'image est très très protégé. Mais ces plateformes opèrent sous le droit anglo-saxon.
Où la notion de consentement est carrément implicite.
Exactement. Le résumé généré par l'IA révèle sans détour qu'en validant ces conditions, l'utilisateur américain cède les droits d'exploitation commerciale de ses photos.
C'est terrifiant.
L'orateur partage d'ailleurs cette anecdote glaçante pour illustrer le propos. Des utilisateurs lambda qui, en voyageant à l'étranger, ont découvert avec stupeur leur propre visage tiré de leurs réseaux sociaux, imprimé sur des campagnes publicitaires ou même des paquets de cigarettes à l'autre bout du monde.
Je serais en panique totale. Mais bon, la machine excelle vraiment pour déterrer ce genre de clauses enterrées sous le jargon.
C'est clair.
C'est un vrai super pouvoir d'analyse. Mais bon, le fait même de confier ces textes, ou pire, nos propres documents privés à ces outils, ça nous amène directement à la face sombre de cette technologie.
Les fameux risques.
Si IA est un outil de traitement logique si puissant, que se passe-t-il quand la matière première sur laquelle elle apprend est, ben, toxique ? L'analogie qui me vient avec nos documents, c'est celle d'un miroir déformant.
Oui.
Si on entraîne la machine sur un monde parfait, elle reflète la perfection. Mais si on la nourrit avec les données d'Internet qui sont remplies de préjugés, de stéréotypes et de haine, elle nous renvoie un reflet de nos propres défauts, mais amplifié à une échelle industrielle.
C'est le problème fondamental des biais algorithmiques et il faut bien comprendre que ce n'est pas un dysfonctionnement de la machine, c'est son fonctionnement normal.
C'est ça qui est dingue.
La machine calcule des moyennes, elle n'a pas d'éthique, pas de conscience morale. Le cas d'école mentionné dans nos sources, c'est le chatbot de Microsoft lancé sur Twitter il y a quelques années.
Ah oui, celui qui a dû être débranché en urgence.
Oui, une catastrophe en relations publiques. En moins de 24 heures, le chatbot a commencé à publier des messages d'une violence inouïe, ouvertement raciste et misogyne.
Et au début, on pensait que c'était la faute des internautes, non ?
Voilà, l'opinion publique a immédiatement cru que les gens s'étaient amusés à le pervertir en lui envoyant des horreurs. Mais la réalité, dévoyée plus tard par des enquêtes, était bien plus structurelle.
C'était quoi alors ?
La base de données linguistiques que les chercheurs avaient utilisée pour lui apprendre l'anglais conversationnel incluait des archives de télégrammes de l'État de l'Alabama datant des années 50.
Attends, c'est fou ! Pourquoi utiliser des télégrammes des années 50 en pleine époque de ségrégation pour entraîner une IA moderne ?
Mais simplement parce que c'était un corpus de texte massif, gratuit, numérisé et prêt à être ingurgité par le modèle. Les ingénieurs regardent la quantité de données, ils ne lisent pas les millions de lignes.
Oh, l'erreur !
Et le moteur probabiliste a fait son travail. Il a absorbé la xénophobie systémique des années 50 et l'a recraché comme étant la norme mathématique de la conversation.
C'est le fameux « garbage in, garbage out » des informaticiens. De mauvaises données donnent de mauvais résultats.
Toujours.
Et l'audio de notre corpus souligne que ça touche aussi l'image. Si on demande à un générateur d'images de créer un patron d'entreprise du CAC 40,
on sait ce qui va sortir.
On obtient systématiquement la même chose. Un homme, blanc, d'une cinquantaine d'années, en costume. Parce que statistiquement, sur Internet, c'est l'image dominante. La machine efface la nuance pour privilégier la norme.
C'est le danger des statistiques. Et cette volonté absolue de fournir un résultat à tout prix génère un autre risque majeur abordé dans la conférence, les hallucinations.
Ah, les fameuses.
Il faut se rappeler que l'outil est conçu pour compléter des séquences de mots. S'il n'a pas la réponse exacte dans ses données, sa nature n'est pas de dire « je ne sais pas ».
Son ego de machine l'en empêche.
C'est ça. Sa nature est de générer la suite de mots la plus vraisemblable.
Donc en gros, elle invente.
Elle invente avec un aplomb terrifiant. Les sources documentent des cas où l'IA, interrogée sur un point de droit ou de médecine, a purement et simplement inventé des études cliniques.
Sérieux ?
Elle a généré des faux noms de chercheurs qui sonnent justes, inventé des titres d'articles et même fabriqué de faux numéros de revues scientifiques.
C'est super dangereux.
La syntaxe est tellement parfaite que l'illusion de crédibilité est totale. D'où la règle d'or, d'exiger les sources et de toujours, toujours vérifier l'information.
Et ce qui nous ramène directement à la place de l'humain dans tout ça, c'est l'idée de la matrice humain-machine développée par les conférenciers.
Oui, l'équilibre à trouver.
Il faut diviser les super-pouvoirs, en fait. On laisse à la machine la capacité d'analyser des montagnes de données, de dégrossir le travail, de structurer des brouillons.
Et on garde le reste.
Voilà, on garde nos super-pouvoirs non transférables. L'empathie, l'éthique et la validation de ce qui est vrai dans le monde physique.
D'ailleurs, en parlant de monde physique, on a souvent tendance à voir l'IA comme une entité éthérée, un nuage de données abstrait.
Le fameux cloud.
Mais la conférence met un grand coup de projecteur sur le coût matériel vertigineux de cette magie. C'est le grand paradoxe de l'immatériel. Entraîner un modèle qui devine le mot suivant demande des ressources titanesque. L'exemple chiffré de notre source est frappant. Pour entraîner ces nouvelles générations d'IA, l'entreprise Meta a dû faire l'acquisition de près de 400 000 cartes graphiques surpuissantes.
400 000 processeurs qui tournent à plein régime en permanence.
Et l'énergie que ça réclame est colossale. Les experts estiment que la consommation électrique des centres de données qui font tourner ce genre d'IA équivaut à la consommation totale d'une ville française de la taille de Reims, un jour de grand froid en plein hiver.
Quand tous les chauffages et les lumières fonctionnent. C'est hallucinant.
Et à cela, il faut ajouter les millions de litres d'eau douce pompés chaque jour simplement pour refroidir les serveurs, éviter qu'ils ne fondent. Sans même parler de l'extraction des métaux rares.
C'est là qu'on prend vraiment du recul. On utilise une technologie qui consomme autant d'électricité qu'une ville entière et assèche des réserves d'eau juste pour générer une recette de pâtes ou résumer un PDF pour gagner 10 minutes.
Ça fait réfléchir.
C'est un arbitrage écologique et sociétal qu'il va falloir sérieusement questionner. Et d'ailleurs, au-delà de l'écologie, il y a la fuite de nos propres données.
Ah ça, la vie privée.
L'avertissement de la présentation est super clair. Quand on utilise un outil gratuit, on est le produit. Le secret industriel ou le brouillon de roman qu'on injecte dans le modèle pour le faire corriger, il risque d'être digéré par la machine et de ressortir dans la réponse d'un autre utilisateur à l'autre bout de la planète.
C'est un vrai risque de sécurité.
Inouï, c'est le mot ?
C'est un accélérateur fantastique pour se libérer des tâches chronophages. C'est même un formidable tuteur éducatif. L'audio raconte l'histoire géniale d'un parent qui utilise l'IA pour expliquer les maths à un enfant bloqué.
Oui, la patience de la machine.
La machine a une patience infinie. Si l'enfant ne comprend pas les fractions avec des tablettes de chocolat, on demande à l'IA de changer d'approche. En une seconde, elle invente une analogie avec des parts de pizza, puis génère un petit jeu interactif pour vérifier la compréhension, sans jamais soupirer.
C'est un super cas d'usage positif.
Mais pour que ce couteau suisse ne se retourne pas contre nous, il exige un chef d'orchestre vigilant.
Dernière question soulevée par les sources. Et c'est à mon sens la plus vertigineuse.
C'est-à-dire ?
C'est le spectre de l'atrophie cognitive.
L'atrophie cognitive, ouais.
Vers la fin de la présentation, on découvre des outils comme Notebook LM. La capacité de ces systèmes est stupéfiante. Vous leur donnez 50 pages de notes de réunion chaotiques ou des tests de recherche complexes.
Ouais.
La machine lit tout en quelques secondes. Elle génère une carte mentale structurée, elle crée des quiz.
Et elle est même capable de générer un fichier audio bluffant de réalisme, où deux voix synthétiques débattent intelligemment de vos propres documents à votre place.
Donc, l'efficacité est totale. On n'a plus rien à faire du tout. Si nous déléguons à un algorithme probabiliste l'effort de lire en profondeur, la douleur de synthétiser des idées contraires, et même l'acte de débattre, que se passe-t-il pour notre propre cerveau ?
Bonne question.
L'inquiétude n'est pas une révolte des machines façon Terminator. Le vrai risque, c'est que face au confort absolu de la synthèse automatique, nous perdions la capacité physique et intellectuelle de forger notre esprit critique.
C'est vraiment l'analogie de la rivière mentionnée dans nos notes. L'invention de la machine à laver était une libération immense.
Complètement.
Mais en l'adoptant, l'humain a perdu le savoir-faire et la musculature nécessaire pour aller laver son linge à la rivière. Et aujourd'hui, on risque tout simplement de perdre la musculature de la pensée critique.
C'est exactement le risque.
Derrière la vitre lisse de nos téléphones, il n'y a pas d'âme, juste des mathématiques colossales qui calculent à la vitesse de la lumière. Et plus ce miroir mathématique sera performant, plus on aura besoin d'esprits humains affûtés, capables de lire, de douter et de penser par eux-mêmes pour ne pas s'y noyer.
Une belle conclusion pour ceux qui nous écoutent.
Une question essentielle à garder en tête pour clore cette exploration. Merci de m'avoir accompagné là-dedans, c'était fascinant.
Avec grand plaisir.
Allez, à la prochaine pour un nouveau décortiquage.